L'once de métal fin se négocie contre 447 $. Quant au CAC 40, il recule de 0,97% à 3761 points. La Bourse de Paris, Vincent Bezeau pour France Inter.
Retrouvez toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés, ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros la minute. 3230, France Inter au bout du fil.
L'arrivée du quintet à Maison Lafitte pour gagner, il fallait jouer le 12, le 11, l'As, le 3 et le 2. On a également l'arrivée de la première course, toujours à Maison Lafitte, de 6 et 10. Vous écoutez France Inter, 14h03. C'est l'heure de 2000 ans d'histoire avec Patrice Gélinet. Bonjour.
Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, du Goncourt au Renaudot, en passant par l'Interallié, le Fémina, le Médicis, le Prix de Flore et beaucoup d'autres, les prix littéraires. Je tiens pour humiliant de la part d'un écrivain de soumettre l'œuvre de son cerveau à l'examen de quelques personnages érigés solennellement en juge officiel du génie. Jean Carrère, 1903. D'histoire. C'est devant un restaurant, on le sait, que tous les ans, à la même époque, on apprend le nom du lauréat du plus célèbre et du plus contesté des prix littéraires, le prix Goncourt. Céline, sans doute très déçue de ne l'avoir jamais eu, disait un jour, je ne savais pas que pour aller au restaurant, il fallait d'abord passer par la cuisine. La contestation des prix littéraires, on le voit, ne date pas d'aujourd'hui, et elle est à la mesure de l'enjeu qu'il représente pour les éditeurs, plus encore que pour les auteurs récompensés, et dont la notoriété ne dure parfois qu'un automne. Qui se souvient du nom des premiers Goncourt, John-Antoine Nau, Léon Frappier, Claude Farrère ou Émile Mosley, on les a depuis longtemps oubliés, à quelques célèbres exceptions près.
Le prix Goncourt pour 1933 est décerné à Monsieur André Malraux pour son roman La Condition Humaine.
Il est d'usage, après tout prix littéraire, d'expliquer pourquoi et comment le livre qu'on a écrit doit plaire à tous. Je désire qu'il n'y ait aucune équivoque sur le mien. J'ai essayé d'exprimer la seule chose qui me tienne à cœur et de montrer quelques images de la grandeur humaine.
L'Iconopniki, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à Marianne, auteur d'un pamphlet aussi sur les prix littéraires qui vient d'être publié. Les prix littéraires auxquels on reproche souvent de récompenser des auteurs qui ne le méritent pas. Le moins qu'on puisse dire en tout cas, c'est qu'en 1933, en choisissant André Malraux, les jurés du Goncourt ne s'étaient pas trompés.
Ah ben, les jurés du Goncourt ne s'étaient pas trompés. Malraux avait développé une véritable stratégie. D'abord, quelques années plus tôt, il apparaît avec comme le premier lauréat d'un prix créé pratiquement à sa main, qui est le prix Interallié, puisque le prix Interallié est créé pour récompenser plutôt des romanciers, journalistes, voyageurs qui sont allés voir le monde là où il se transformait. Et donc,
Malraux, je crois même que c'était des journalistes qui attendaient, qui en avaient marre d'attendre les délibérations du prix Fémina au cercle Interallié, qui s'étaient dit, tiens, en s'ennuyant, on va créer un prix pour les journalistes, car les jurés sont des journalistes.
Là, les jurés sont des journalistes, et effectivement, c'est attendant les délibérations au cercle Interallié, d'où ce nom étrange, parce qu'on a l'impression que c'est un prix qui vient à la fin de la guerre de 14 glorifier le souvenir de nos alliés. Pas du tout, il est créé au cercle Interallié, et c'est pourquoi il prend ce titre. Mais il est censé récompenser plutôt des romanciers journalistes, et avec au sens où Malraux a été journaliste, quoique jamais sous une carte de presse, mais a vraiment été sur les points chauds du monde, en Indochine, en Chine, plus tard en Espagne, où là, quand il tourne, il n'est pas tout à fait un journaliste, mais un homme qui s'est engagé, mais néanmoins, il tourne. Cela dit, quand on reprend la liste, effectivement, il y a eu Malraux, effectivement, il y a eu Proust, effectivement, il y a eu sans doute le Goncourt le plus courageux de l'histoire, qui est en 1916, Henri Barbus. Pour le feu, alors qu'on est en pleine censure militaire et dans le moment incertain de la guerre. Et Barbus, il fallait le faire. Maintenant, quand on prend la liste sur 100 ans, 101 ans maintenant pour le Goncourt, on est quand même frappé par le nombre de gens qu'on a totalement oubliés. Très rarement, justement.
Ah, Céline, Romain Rolland, Mauriac, Aragon, Camus, qui n'ont jamais eu le Goncourt, même c'est si bien, Aragon ouais. s'est retrouvé dans le jury. Alors, dès le début, en tout cas, vraiment, ce qui est frappant, c'est qu'il a été critiqué, on l'a soupçonné de magouille. C'est d'ailleurs le titre de votre livre, un prix littéraire, La Grande Magouille, ce qui d'ailleurs vous interdit, Kalpniki, d'avoir le Goncourt, vous comprenez. Hein,
on verra bien.
parce que non seulement vous le critiquez, mais vous critiquez aussi les autres prix littéraires qui ont été créés après, le Fémina, donc, avec un jury féminin, comme son nom indique, dès 1904, le Renaudot en 1925, l'Interallié, on en a parlé, en 1930, le Médicis en 58, mais vous dites de tous ces prix, au fond, qu'ils sont destinés à ramasser les restes du Goncourt. Décidément, vous faites beaucoup d'ennemis.
Oui, c'est plus tout à fait comme ça, mais en réalité, ce qui s'est passé, c'est que chaque prix a été créé pour contester un autre. D'ailleurs, le prix Goncourt lui-même se crée parce que les frères Goncourt, qui le lèguent par testament, constatent, comme tout le monde, que l'Académie française de cette époque n'a plus grand sens, qu'elle admet des écrivains qu'à Cochim et qu'elle n'a pas reconnu les grands de la deuxième moitié du 19e siècle. Il y a encore quelques vrais écrivains, quelques grands écrivains à l'Académie, type Anatole France, mais enfin, on y trouve plus souvent des généraux, des évêques.
Donc c'est une rébellion, le prix politiques. Goncourt.
Le prix Goncourt est une rébellion.
Contre l'Académie française, qui n'avait pas de prix encore. Le prix de l'Académie française est postérieur
au
Goncourt.
C'est une réplique au Goncourt, parce que que disent les frères Goncourt? Ils disent, on reconnaît les écrivains moribonds en les élisant sur un fauteuil d'immortel. Bien. Et donc, au contraire, il faut reconnaître les jeunes talents ou les écrivains de la maturité en donnant un prix à la littérature vivante. Donc c'est déjà une contestation. Et tout de suite après, Madame de Noailles, la grande Madame de Noailles, dit, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce jury où sur 9 membres, il y a 9 hommes? Donc, oui, c'est vrai, en réplique, elle crée une académie de 9 femmes, qui est le Fémina.
Et qui, d'ailleurs, en 100 ans, n'a couronné que 9 femmes, il faut le rappeler.
Ah oui, absolument, ça n'était pas fait pour couronner les femmes.
Alors, au total, plus de 1000 prix littéraires, dont le Goncourt reste malgré tout le plus important et le plus contesté, y compris, d'ailleurs, par ceux qui le reçoivent, mais qui le refusent, parfois, comme le lauréat du Goncourt, annoncé par Raymond Queneau, devant chez Drouan, en 1951.
Raymond Queneau apparaît. C'est une bousculade insensée.
Les messieurs, s'il vous plaît. Oh là 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 là. Allez-y, allez-y. Silence. Et c'est la parole à M. Queneau, au nom de l'Académie française.
Aujourd'hui, 3 décembre 1951, notre Académie a décerné son 49e prix au rivage des Sirtes de Julien Gracq, par 6 voix au premier tour.
Et maintenant, Gaston Picard, président du jury Renaudot, va annoncer le résultat du prix Renaudot.
Le prix Théophraste de Renaudot 51 a été attribué à Robert Margery.
Et c'était les prix Goncourt et Renaudot 1951. Le prix Goncourt 51 ayant été refusé par son lauréat, qui était Julien Gracq. Cela dit, ce qui compte, c'est pas de refuser le prix, c'est d'avoir les ventes qui en sont la conséquence, Guy Kalpniki.
Ah oui,
ce que fait Gracq, au fond, c'est pas forcément très courageux. C'est quoi le prix Goncourt?
Le prix Goncourt, c'est rien. Que ce soit d'ailleurs, c'est justement l'un de ces.
C'était 5000 francs or au début, hein. C'était beaucoup, mais maintenant c'est plus rien.
5000 francs or, je crois que c'est toujours 5000 francs, c'est-à-dire rien. Les jurés eux-mêmes, d'ailleurs, les Goncourt avaient dit qu'ils devaient être indépendants. Et donc, ils avaient une rente annuelle de 6000 francs. 6000 francs, à l'époque, c'est une très belle rente, en 1903-1904. Sauf qu'aujourd'hui, ils ont, de réévaluation en réévaluation, ils ont 1 euro, ce qui n'est pas le prix du café chez Drouan. Le Goncourt vaut par ses ventes. Alors, Julien Gracq refuse, de fait, il l'a. Est-ce qu'il double sa publicité? C'est pas tout à fait dans le personnage. Ce qui est dans le personnage, c'est qu'il ne s'y attend absolument pas, qu'il a un très grand mépris pour ses contemporains, et il ne veut pas être récompensé par des contemporains, ni surtout avoir à être comparé aux autres auteurs faisant la course au prix. Ugrac avait, alors bien sûr que Le Rivage des Sirtes est un très grand livre, un très grand roman, que lui est un grand écrivain, mais il avait une très haute idée de lui-même, il faut le dire.
Alors, les ventes peuvent être considérables. Malraux, qu'on a entendu tout à l'heure, je crois, avec Sa Condition Humaine, a vendu à 4 millions d'exemplaires. Oui. Il y a eu quelques autres grands succès. Marguerite Duras, je crois, qui a fait 2 millions et demi avec L'Amant, je crois, Guy Calapouti.
Oui, absolument. Oui.
Hein, et puis, en moyenne, alors c'est moins vrai maintenant, mais on y reviendra plus tard, en moyenne, c'est au-dessus de 200 à 300 000 exemplaires. C'est donc une grosse affaire. D'où l'importance, bien sûr, du jury, comme Niki, qui ont plusieurs points communs en France par rapport à d'autres jurys littéraires à l'étranger. D'abord, ils sont choisis à vie. Ils sont tous des écrivains, hein, et ils sont choisis à vie.
Alors, ils sont tous des écrivains, il y a une exception maintenant.
Presque tous, hein, il y a des prix littéraires qui ne sont pas décernés par les écrivains, je pense.
Presque tous, mais par exemple, maintenant, il y a une exception au Goncourt avec l'élection de Bernard Pivot, mm-hmm. qui n'est pas un romancier. Je crois que c'est la première fois depuis très longtemps qu'il y a un homme de lettres qui n'est pas un romancier, qui plus est un homme de télévision. Mais ça, on verra après. Ce sont des écrivains cooptés à vie. Alors, particularité française, effectivement, le Booker Prize britannique change son jury tous les ans. Le Pulitzer américain change son jury tous les 3 ans. Là, on y est à vie.
Et pour tous les prix, hein, pour les prix, plus grands,
tous,
plus
importants. Ouais. Non, tous les prix. Et quand, par exemple, le président du prix de Flore, qui plaidoyait pro domo, vous permettez, répond à une pétition de Marianne que nous avions lancée il y a 2 ans, et Frédéric Becbédé, qui préside le prix de Flore, dit, mais vous avez raison, il faudrait renouveler les jurys, alors suivant des modes, ça peut être par tiers, ça peut être en totalité, etc. Il fait sa proposition au jury, qui est le plus jeune des jurys, et la réponse est non. Le prix de Flore a voté non au renouvellement. Or, c'est un jury qui doit avoir entre 35 et 40 ans, en gros. C'est un principe calqué sur celui de l'Académie française. Quand on est juré, on est immortel, et ceci a plusieurs conséquences perverses. La première, loin de moi l'idée de faire du jeunisme, mais la première, c'est une moyenne d'âge extrêmement élevée.
76 ans pour le Goncourt.
76 ans pour le Goncourt. Le Renaudot est un peu plus jeune, mais le Fémina a aussi un âge canonique, c'est le cas de le dire. Et donc, nous avons des jurés, des jurys de moyenne d'âge élevée. Premier défaut. Deuxième défaut, c'est qu'évidemment, on siège pendant 30 ans, pendant 40 ans, parce qu'il se trouve que l'espérance de vie n'est plus ce qu'elle était en 1904, elle s'est considérablement allongée, que les écrivains n'ont plus tellement l'occasion de mourir au champ d'honneur, et peu d'entre eux font encore des exploits à la Roger Nimier ou à la Albert Camus avec des voitures de sport. Donc, on vit vieux et on est élu en général entre 45 et 55 ans, et on reste jusqu'à 80, 90 ans, jusqu'au moment où un François Nourricier, avec beaucoup d'honnêteté, dit, écoutez, je peux plus, j'ai la maladie de Parkinson.
Ça aussi c'est impossible, voilà. D'ailleurs, même pour quelqu'un de jeune, lire les 600 livres qui sont en principe soumis au concours, toujours à la même période aussi, ça c'est une autre caractéristique, à l'automne. En tout cas, il y a beaucoup de critiques qui sont formulées, et que reconnaissait lui-même le président de l'Académie Goncourt en 1975, Hervé Bazin.
Oh, le Goncourt ne sera jamais calme. Par définition, il ne peut pas l'être. Pourquoi ? Parce que, d'une part, il représente la chance majeure, la chance inattendue, et qu'on n'aime pas tellement la chance des autres. Deuxièmement, parce que sur 150 ou 200 candidats, il ne peut en être couronné qu'un seul, et que ça fait, à tous les coups, un minimum de 149 mécontents. Et de 149 et demi. Enfin, parce que la publicité qui est autour tente un nombre considérable de gens.
Alors, si on comprend bien Hervé Bazin, Guy Klopniki, que l'on entendait en 75, au fond, c'est les jaloux qui critiquent le Goncourt, c'est ceux qui ne l'ont pas eu.
Oui, je crois que ça n'est pas exact, mais Bazin est parmi les présidents de l'Académie Goncourt, pas forcément le plus glorieux. D'abord, je crois que c'est celui qui n'a pas remarqué qu'on couronnait deux fois le même écrivain qui avait pris un pseudonyme.
Personne ne le savait. Vous pensez à Ajar et Gary.
Ajar et Gary. Paris, oui, mais ça s'est pas, ça s'est passé.
C'est hasard,
ça s'est passé à ce moment-là. Bon. Et surtout, voilà un auteur qui, devenant président de l'Académie Goncourt, change d'éditeur, va passer chez Grasset avec un magnifique contrat, et disons que c'est un contrat assez largement surévalué par Jean-Claude Fasquelle, bien, sachant qu'Hervé Bazin a été l'homme d'un grand livre, Vipère au poing, et que depuis, aucun de ses romans n'a rencontré le succès.
Alors là, vous abordez un autre sujet qui est l'édition, le rôle des éditeurs dans le choix des Goncourt, un rôle que critiquait déjà Jean Edernalier, qui dans les années 70 était à la tête de la contestation des prix littéraires, France Inter, Alain Gillot-Pétré, le 12 novembre 1975.
Au centre de la contestation cette année, Jean Edernalier. Jean Edernalier, c'est du soufre en ébullition, c'est un archevêque de l'agitprope. C'est le grille-pain des écrivains à fort tirage. Et il n'était que justice de lui demander franchement si oui ou non il était responsable de la guérilla littéraire d'aujourd'hui.
Question réponse, Jean Edernalier. Êtes-vous à l'origine de la distribution de tracts du 7 octobre à la sortie du déjeuner Goncourt et du jet de sauce tomate qu'a reçu Michel Tournier?
Non, je ne suis pas à l'origine de ce tract, mais étant donné ce qui se passe maintenant, je revendique tout.
Jacques Thieulois, écrivain, est en prison pour avoir, d'après ce que l'on sait, été à l'origine de la bombe dans l'escalier de Françoise Malé-Joris.
Puisque l'on prétend que je suis l'inspirateur et l'initiateur de tout ça, pourquoi ne m'arrête-t-on pas? C'est vraiment la justice de classe appliquée aux écrivains. Tout ce que je peux dire, c'est que s'il Thieulois n'est pas libéré avant le jour du Goncourt, j'irai me constituer prisonnier.
Et c'était Jean Edernalier en 75, il y a presque 30 ans. Lui non plus, il risquait pas d'avoir le Goncourt, Gikonopniki, hein. C'était vraiment, il était à la tête de la contestation des prix littéraires en général, d'ailleurs.
Oui, il était à la tête d'une contestation littéraire.
C'était pas rien.
Oui, qui ensuite a été bien récupéré. C'est-à-dire que, ça, j'en sais quelque chose, je crois que mon premier roman a été publié aux éditions Libre Allier, devenu filiale d'Alba Michel. Et disons que la bande de jeunes écrivains réunis à l'époque par Jean Edern, contestant les prix, a tout de même servi à dépoussiérer un peu la vitrine d'Albin Michel, qui a ensuite continué avec Patrick Besson et quelques autres sur le mode la contestation, la rupture avec les autres maisons d'édition, et puis ensuite ça a permis à Albin de bien rentrer dans le rang, d'être un des maîtres du jeu et d'obtenir quelques concours et quelques renaudos.
Alors là, on parle, bien sûr, on est en plein dans ce qui est au centre, au fond, de la polémique sur les choix faits dans les prix littéraires en général, dans le Goncourt en particulier, et qui est évidemment le rôle des éditeurs, parce qu'au fond, on le constate bien, quand on a eu des chiffres de vente à la suite d'un prix littéraire, et notamment le Goncourt, évidemment, récompense au moins autant l'auteur que l'éditeur, et il se trouve que pendant des années, et même depuis le début, je prends encore le cas du Goncourt, en 100 ans, eh bien, ça a été monopolisé pour les trois quarts des prix par quatre maisons d'édition, et même à un moment donné trois, ce qu'on appelait une maison d'édition, Galli-Grasseuil, hein, Gallimard, Grasset, Le Seuil. C'est vrai que ils ont l'essentiel des prix. Bon, cela dit, on peut aussi le comprendre, Guy Comtiki, parce que ce sont les maisons qui publient le plus grand nombre de romans.
Alors, ce sont il y a des maisons qui ont été moins bien servies, même si certaines le sont très récemment. Mais quand on regarde, par exemple, Minuit, qui a été servi assez bien au Médicis, chercher les Goncourt, etc. Il y en a pas beaucoup, alors que c'est une très grande maison d'édition qui peut se flatter d'avoir eu un des prix Nobel, Claude Simon, qui n'a jamais été seulement cité au Goncourt. Ce sont des arrangements entre maisons d'édition. On discute, on se répartit les prix. C'est-à-dire que les prix qui ont tous été créés pour en contester un autre fonctionnent au fond en association. Alors il y a des guerres de préséance, le Femina qui annonce depuis quelques années son lauréat avant le Goncourt, de manière à ne pas se le faire prendre, parce qu'on tombe aussi souvent sur les mêmes auteurs. Mais ce sont quand même d'abord des arrangements entre maisons d'édition. C'est-à-dire que l'ordre est exactement inversé. On est d'abord sur la maison d'édition, ensuite sur l'auteur, et enfin sur le roman. C'est-à-dire, quand je dis ensuite sur l'auteur, par exemple, quand on a récompensé Marguerite Duras, on récompensait l'auteur, ça n'était pas son meilleur roman, Là où elle était vraiment dans l'innovation littéraire quelques années plus tôt, elle n'a rien eu. Et le jour où elle fait, en gros, un roman de gare élégant, parce qu'il est quand même de Marguerite Duras, là elle ramasse le Goncourt. Donc c'est l'auteur, ils se sont dit cette fois, oulala, on a raté une grande, on va la primer. Et dans l'ensemble, c'est quand même d'abord la maison d'édition qui compte.
Mais je vais jouer un peu les naïfs, Guy Kenopsi, qui, bon, vous dites, on choisit les lauréats. Bon, on, c'est pas les maisons d'édition, c'est les membres du jury. Donc ça veut dire, et bien sûr, que comme ils sont tous écrivains, ils ont tous une maison d'édition, et qu'ils ont tendance à voter, bien sûr, pour leur maison d'édition.
Oui, bien sûr, c'est-à-dire que le problème des jurys à vie, c'est pas seulement parce que les gens deviennent vieux, ce sont des auteurs. Ils ne sont pas payés en tant que membres de l'Académie Goncourt, de l'Interallier ou du Fémina. Bien, ils sont même pas défrayés. Ils reçoivent les livres qu'ils doivent juger. Point à la ligne. Donc ils n'ont rien. Tout ceci prend du temps. Et en même temps, ils sont écrivains sous contrat. Alors certains sont des écrivains rencontrant assez de succès pour ne pas dépendre étroitement au sens matériel de leur éditeur. Je pense à Robert Sabatier, c'est plutôt Albin Michel qui dépend de lui, parce que compte tenu des succès énormes de chacun de ses livres, des allumettes...
Albin Michel qui a eu 10 Goncourt.
Albin Michel qui a eu 10 Goncourt. Mais... bien sûr que Sabatier, on peut pas dire que Sabatier est stipendié par Albin Michel, parce que Sabatier rapporte un argent fou à Albin Michel en tant que c'est l'un des écrivains les plus populaires de France.
Tournier, c'est pareil. Tournier,
c'est plus récent en termes de vente.
Des jurés intègres.
Il fait partie du jury intègre, c'est un très grand écrivain, il est éventuellement nobélisable, on le dit, etc.
Mais alors justement,
Mais regardons tous les autres, beaucoup d'écrivains, même membres d'académie, dépendent très étroitement de leurs éditeurs pour vivre. Et ensuite, il y a tout le jeu des honneurs. Vous savez, Jean-Marie Roire, qui en remettant en tant qu'académicien, il remet, il y a 2 ou 3 ans, il remet les prix de l'Académie française, et il fait une tirade totalement étonnante, de naïveté confondante, sur le goût des honneurs, comme nous aimons avoir un petit ruban rouge à la boutonnière, un prix littéraire, etc. Eh bien, on flatte les membres des jurys. Et on les flatte d'autant plus facilement que quand on prend de l'âge, on sait bien que ça marche mieux. La flatterie.
Il y a d'autres moyens. Il y a un catering. Ce sont les avaloirs que l'on verse aux auteurs avant qu'ils aient écrit leur livre. Et parfois, ils sont, dans certains cas, vous le dites, et je l'ai lu ailleurs, disproportionnés par rapport à ce qu'on peut espérer des ventes de ce livre. Je pense à un auteur que peu de gens lisaient, qui est resté pendant des années à l'Académie Goncourt, qui est André Steel, qui était plus connu d'ailleurs pour son apologie de l'URSS à l'époque de l'affaire de Budapest que pour ses talents littéraires. Mais il pesait lourd, bien sûr. Ah,
André Steele pesait, était devenu fidèle juré Grasset. C'était un écrivain que les militants communistes de 1952 avaient obligation de lire, mais depuis, personne ne le lisait plus. Il publiait un roman par an ou un roman tous les 2 ans chez Grasset, qui ne se vendait absolument pas, et il touchait de confortables avances. On comprend bien pourquoi.
Alors, à vous lire et à vous entendre, Guy Kenopsi, on devrait s'attendre à ce que systématiquement les prix reviennent à quelques-unes des très grandes maisons d'édition. Eh bien, c'est pas toujours le cas. Écoutez ce qui s'est passé au dernier prix Goncourt et Renaudot, France Inter, Lise Joly et Bruno Duvic, le 8 novembre dernier.
France Inter. De mèche avec les grands éditeurs, conformistes, vieux jeu. Ces reproches sont souvent adressés aux jurés des prix Goncourt et Renaudot, mais cette année, ils ont osé. Le Goncourt est attribué à un jeune écrivain et une jeune maison d'édition. Laurent Godet a 32 ans, Actes Sud 26 ans. Le roman s'appelle Le Soleil des Scorta. C'est l'histoire d'une famille du sud de l'Italie de la fin du 19e à nos jours.
Quant au prix Renaudot, pour la première fois de son histoire, il est attribué à titre posthume. La lauréate s'appelle Irène Némirovski, d'origine juive ukrainienne. Elle est morte à Auschwitz en 1942. Sa suite française raconte l'exode de juin 40, publié chez De Noël.
Alors un Renaudot attribué à titre posthume, et surtout un Goncourt qui va à une maison d'édition qui ne l'a jamais eu, qui est Actes Sud, ça vous fait mentir, Guy Kenopsi.
Oui et non. C'est-à-dire
que... peut-être que c'est parce qu'ils vous ont lu qu'ils ont décidé finalement de faire preuve de vertu en donnant enfin à Actes Sud le Goncourt.
Alors il y a une crise dans le jury Goncourt. Il y a eu une crise, c'est absolument clair. Cela s'est dé- déjà vu d'ailleurs au moment de l'élection au fauteuil, au couvert, on dit au concours, d'André Stil, donc qui est mort en octobre. Il est remplacé par Bernard Pivot, bien parce que les quatre maisons représentées dans le jury Goncourt n'arrive plus à un moment à se mettre d'accord, et donc on trouve un terrain d'entente qui est Pivot. De même là, on trouve un terrain d'entente qui est Actes Sud, et on a le besoin de prouver, contre d'ailleurs la présidente, mais qui après a publiquement accepté à jouer le jeu, on décide donc de primer cette maison d'édition qui, en 26 ans d'existence, qui a publié beaucoup de choses, beaucoup de romans, et maison d'ailleurs dont on s'est aperçu qu'elle avait édité avant toutes les autres le prix Nobel de littérature hongrois, Imre Kertész.
Mais est-ce que ça compte tellement maintenant en réalité? Parce qu'on se rend compte d'une chose, et vous le dites vous-même, c'est que ces prix qui autrefois avaient des succès de librairie considérables n'en ont plus beaucoup. Les deux derniers Goncourt sont restés en dessous de 100 000 éditeurs, et on s'aperçoit qu'au fond, pour bien vendre un livre aujourd'hui, il est loin d'être nécessaire de passer par un prix littéraire. Le plus grand succès des librairies qui soit, c'est peut-être pas un grand roman, mais c'est Marie Higgins Clark, Guy Konopnicki.
Bien sûr, si on regarde les grilles qui paraissent dans quelques hebdomadaires, on s'aperçoit cette semaine que les prix littéraires ne sont pas en tête, ceux de cette année, et qu'ils ne sont pas en plus dans l'ordre habituel de préséance. C'est-à-dire que Jean-Paul Dubois, Une vie française, prix Femina, est loin devant le Goncourt, qui est en 18e position, etc. Alors, il y a une crise parce que, effectivement, tout ce climat de magouille est connu. Il y a eu une résistance de la part des jurys au fait qu'il y a une concentration qui préoccupe tout le monde dans l'édition. Et puis, il faudrait vraiment rénover le système, parce que le lecteur de livres est par réputation, par définition même intelligent, et n'est plus dupe du système.
Merci Guy Konopnicki. Ben, écoutez, parmi les livres, puisqu'on parlait de livres, je recommande donc le vôtre, Prix littéraire La Grande Magouille, publié chez Jean-Claude Gavsevitch. Vous pouvez retrouver cette référence en contactant le service des relations auditeurs au 32 30 34 centimes la minute, ou en consultant le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Pascal Baldassari, Clotilde Thomas, Virginie Bloch-Léné, Claire Tesser, Amélie Briand et Caroline